L'éthique est un sujet extrêmement vaste, aux frontières pas toujours bien définissables. Il induit énormément de faits dans l'informatique, comme la conception d'algo autonomes, ce que l'on appelle intelligence artificielle, de procès d'intention sur les bibliothèques, comme les cas d'usage des outils. Inland fait le pari d'en parler en conférence, donc nous devions de le faire parler puisqu'il passait au Capitole du Libre. Nous recevons Mads, tech évangéliste pour Always Data, développeur avec une sensibilité cybersécurité, pas né de la dernière pluie et couleur de cheveux changeants, ce qui agace les préposés au passeport puisqu'il faut les refaire à chaque fois. CPU carré petit utile. Mads, comment as-tu appris à programmer?
J'ai appris à programmer il y a longtemps déjà. C'était quand j'étais au lycée. J'avais des copains qui étaient déjà bien plus avancés que moi sur le domaine de programmation. Et j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était pas mal versé dans l'info aussi, qui m'a filé mes premiers ordinateurs. Et puis à partir de là, j'ai commencé à bidouiller, j'ai commencé à faire du code, à suivre les copains et puis à traîner sur les chats IRC. Et puis voilà, ça a démarré comme ça.
Qui t'a donné conscience au bout d'un moment qu'il y a un besoin d'éthique dans l'informatique? Quel est le moment ou la personne ou le fait divers?
Je dirais que ça vient au départ d'une prise de conscience alors que je travaillais dans une agence qui est une belle agence au demeurant, plutôt chouette, avec des beaux projets techniques, mais au bout d'un moment j'ai fini par me dire je suis pas hyper satisfait de me lever le matin pour aller travailler sur ces projets là parce que finalement moi, ça m'apporte des choses techniquement, mais j'ai pas l'impression d'apporter énormément au monde en travaillant là-dessus. Et j'ai besoin de trouver des projets qui aient des valeurs plus importantes, dans lesquelles moi je me retrouve plus, et dans lesquelles, au moins, quand je me lève le matin, je me dis « Ok, là j'ai fait un truc qui va aider les gens et qui aidera mes gamins plus tard. »
Tu veux dire que le baby-foot ne t'a pas suffi?
Je dis que le baby-foot n'est pas la pierre angulaire de nos travail et de nos sociétés.
3615 My Life, moi j'ai eu des cours au lycée, au tout début des années 90, sur la CNIL, en option informatique, et en fait moi ça m'a surpris parce que ça m'a éduqué sur pas mal de choses. Est-ce que toi tu as eu ce genre de cours, et est-ce que par hasard c'est pas quelque chose qu'il faudrait peut-être remettre en place?
Alors j'ai pas eu de cours d'info au lycée, j'ai eu des cours d'info en prépa, et c'est vrai que c'est un domaine qui était totalement absent des cours d'info qu'on avait. On avait vraiment des cours d'algorithmie, des cours de programmation, et finalement assez peu de cours d'info généralistes. C'est probablement quelque chose qui manque. Après, pour connaître pas mal de jeunes profs aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a ces cours qui sont les successeurs des cours d'éducation civique, dont j'ai oublié le nom actuel maintenant, mais qui vise aussi à réveiller un peu les jeunes consciences sur ce qu'est la vie numérique, l'écosystème numérique, les responsabilités numériques, la privacy, etc. Et probablement, j'espère en tout cas que ces jeunes générations de profs vont s'emparer de ce biais-là pour pouvoir permettre à leurs étudiants d'avoir des reculs critiques là-dessus.
Pourquoi développer un logiciel de salaud?
Je vais te répondre, définir salaud.
Je sais pas, un système de tir automatique a servi à une caméra, des ponctions automatiques sur les comptes bancaires, un ransomware.
Finalement, il y a deux versants. C'est tout le problème de l'éthique et de la morale, c'est que l'éthique n'est pas la morale finalement. Et la morale, c'est une chose. C'est une espèce de valeur qu'on essaye d'avoir de façon absolue dans une société. Là où l'éthique est un curseur qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus changeant. Et alors évidemment, il y a des choses qui sont très absolument reconnaissables comme étant des trucs dégueulasses, typiquement du ransomware ou de la ponction automatique sur des comptes bancaires, etc. Là, ça vise un objectif qui est purement personnel et tu peux pas considérer que c'est une démarche éthique à partir du moment où ça n'implique qu'un seul individu et ça ne bénéficie qu'à un seul individu. Les systèmes de tir automatique, c'est plus compliqué déjà, parce que oui, bien sûr, c'est dégueulasse. Personne n'a envie de bombarder des gens ou personne n'a envie de tirer sur des gens.
Ça, c'est ton point de vue, on n'en sait rien. Ouais, ouais. Il y en a peut-être.
Voilà, c'est ça. C'est effectivement, c'est mon point de vue, mais ça n'implique que moi. Je pense que dans d'autres sociétés, il y a des gens qui considèrent que c'est très bien de se retrouver défendu par des systèmes automatisés. Et ben voilà, c'est tout le problème, toute la problématique de l'éthique, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est totalement non éthique à partir du moment où ça peut aussi protéger des populations d'actions militaires agressives, etc. Donc c'est assez compliqué finalement.
Est-ce que le logiciel libre est éthique par définition, ou finalement, ben oui, le logiciel libre, il peut avoir des comportements non éthiques codés et tout à fait reconnaissables dans son code source?
Alors, reconnaissable dans le code source, je ne suis pas sûr, ne serait-ce que parce que ça voudrait dire que un individu, à un moment, s'est servi de la code base pour servir ses intérêts personnels. Et ça, normalement, le logiciel libre nous en prémunit, puisque le côté ouvert du code fait qu'il est largement auditable par chacun, et donc normalement, on doit être capable de détecter ce genre de choses. Après, c'est plus sur l'usage du logiciel libre que ça va être intéressant. Il y a un exemple que je donnais dans cette conf, qui pour moi est un exemple un peu fort, c'est les drones militaires qui servent à surveiller et à protéger et à observer et parfois à bombarder et à tuer des gens. De fait, à partir du moment où ils sont utilisés pour aller tuer des gens sur le terrain, on ne peut pas considérer que ce soit des bonnes machines. Enfin, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la guerre, c'est mal. Mais après, ces drones, ils utilisent quand même un kernel Linux embarqué, quoi. Est-ce qu'il faut considérer à partir de là que le kernel Linux est quelque chose de mauvais? A fortiori, je pense pas, tu vois. Sinon, je ferais pas tourner ma machine avec. Mais il y a aussi la question de comment on utilise les logiciels libres. Et c'est la même chose qu'avec la théorie de la relativité, quand finalement les travaux d'Einstein servent à faire la bombe atomique, tu vois. Il y a un moment, c'est à quel moment tu vois l'usage et le bon ou le mauvais usage des travaux, quoi.
Et comment limiter l'usage d'un logiciel dont les utilisateurs emploient des fins non éthiques selon ta perception? N'est-ce pas un risque juridique pour les logiciels libres de contrevenir au principe même de leur licence, de dire « tu ne dois pas tuer avec mon logiciel alors que ce n'est pas dans le contrat de licence GPL ?»
Et ben voilà, c'est tout le problème des licences libres. C'est que la licence libre, par essence, elle te permet de faire ce que tu veux et de le réutiliser, de le modifier, de le redistribuer comme tu veux. Donc il y a peut-être une vraie question juridique à se poser sur quelle licence on veut donner à nos logiciels, et est-ce qu'il faut faire évoluer certaines licences pour qu'elles impliquent de ne pas avoir le code réutilisé dans certains contextes, etc. Et puis après, il y a aussi toute la dimension du support juridique. C'est bien d'avoir une licence que tu puisses pas utiliser, qui dise que tu ne peux pas utiliser le logiciel à des fins, voilà, à des fins militaires, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où finalement le logiciel est quand même utilisé à cette fin-là? Ça veut dire qu'il faut avoir un recours juridique, il faut porter ça devant des tribunaux. Hier, on me faisait remarquer que le code de licence de Microsoft, par exemple, interdit que Windows soit utilisé dans des avions. Pour autant, Windows est quand même utilisé dans des avions, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est Microsoft, tu vois. Ils ont largement les moyens à un moment, de porter des procès devant des compagnies aériennes en disant « la licence vous interdit de le faire », etc. Ils ne le font pas pour autant. Donc, quel poids juridique peuvent aussi avoir ces licences-là à un moment où il va falloir contrevenir des armateurs ou des utilisateurs d'armes, etc.
Alors, en 2013, au Capitole Libre, j'ai fait une conférence sur la licence JSON. Tu sais qu'elle n'est pas libre à cause d'une phrase qui est « ce logiciel ne doit pas être fait pour faire le mal ». Et en soit, « define evil ». Et c'est un peu compliqué de ce côté-là. Est-ce que toi, tu t'es dit « comment je pourrais définir le mal ?»
Ouais, c'est une vraie bonne question. Alors là, on va plonger carrément dans la philosophie. mais c'est tout ce qui sous-tend les questions d'éthique, finalement. Définir le mal, encore une fois, c'est plusieurs échelles de valeur, quoi. Ça va dépendre des sociétés. Il y a des gens qui vont te dire qu'effectivement, aller tuer des gens, ou aller enfermer des gens, ou aller torturer des gens, c'est mal. Il y a d'autres sociétés qui vont considérer que c'est parfaitement acceptable et que c'est même nécessaire au bon fonctionnement de leur société. Et dans ces cas-là, on peut pas vraiment dire ça c'est bien, ça c'est mal, et on peut pas non plus arbitrairement nous, petits blancs européens ou américains, décider pour le reste du monde de ce qui est arbitrairement bien ou mal. Donc ça pose des problèmes parce qu'à partir du moment où tu introduis une notion changeante au sein d'une licence comme la licence JSON, effectivement, c'est extrêmement compliqué de pouvoir avoir une interprétation fiable de la loi et de ce que porte cette licence.
Douglas Crockford d'ailleurs l'a amendé. Mais ça, on mettra le lien pour que vous ayez voir pour quelle entreprise et surtout dans quel sens la licence. Ça vaut à soi-même, c'est un gag assez intéressant. Oui, parce que c'est une blague. Est-ce que tu as déjà quitté un job pour des raisons éthiques ? Moi, pas, hein, personnellement.
Alors, quitter un job pour des raisons éthiques, là aussi, on va dire define éthique. C'est-à-dire que typiquement, l'agence dont je parlais tout à l'heure, qui était une belle agence et qui reste une belle agence aujourd'hui, c'était techniquement intéressant parce que je travaillais sur des projets qui étaient majoritairement des projets dédiés au luxe. Donc, produits de luxe, des grosses problématiques de localisation, des grosses problématiques de plateformes continentales sur lesquelles il fallait avoir un support permanent, etc. Donc, il y avait des vraies questions techniques vraiment intéressantes. Juste à un moment, je me suis dit, je suis en train de mettre le savoir-faire que j'ai acquis pendant des années au service de boîtes qui font des millions pour les aider à en faire encore quelques-uns de plus. Et ça, finalement, je ne suis pas très confortable avec ça. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à dire, bon, j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais faire dans cette agence, maintenant j'ai envie de trouver quelque chose d'autre. Donc je ne peux pas dire que j'ai quitté le boulot pour des raisons non éthiques, mais typiquement, c'était pour un problème de valeur associé à ça. Tu vois.
Alors, il se trouve que dans le code du travail, du moins pour ce qui s'applique pour les développeurs, il y a l'obligation d'informer effectivement s'il y a quelque chose qui ne rentre pas dedans, mais je ne suis pas sûr qu'il existe un devoir de réserve.
Alors je suis pas sûr non plus. Alors encore une fois, je suis pas juriste et il conviendrait de poser la question à des juristes, mais je ne crois pas qu'il existe un devoir de réserve ou un profil d'objecteur de conscience dans nos professions, effectivement.
Le statut de lanceur d'alerte est théoriquement protégé, théoriquement, mais ne faudrait-il pas un syndicat pour être porte-parole d'un projet non éthique ? Je veux dire un syndicat pas lié aux 2S2I, hein.
C'est exactement l'une des questions et un débat qu'on avait suite à la conférence hier. C'est effectivement, on a un devoir, une responsabilité individuelle en tant que développeur au moment où on met des choses en place dans le code, de se dire c'est moi qui choisis de mettre ça en place, donc c'est quand même ma responsabilité. Typiquement le cas Volkswagen où effectivement l'ingé en chef du système de trucage des analyses diesel s'est retrouvé condamné personnellement pour avoir mis ça dans le code. Donc ça engage nos responsabilités personnelles. Maintenant, c'est aussi compliqué quand on est tout seul d'aller s'opposer à une hiérarchie et il conviendrait très certainement d'avoir une structure sur laquelle s'appuyer. Le syndicat est probablement un des bons outils. Après, il faut trouver le bon syndicat ou la bonne structure qui est capable de nous porter, de nous assister dans ce type de démarche.
Et on bitch un peu, mais après tout, le Syntec, il pourrait peut-être dénoncer un projet non éthique ou tu n'y crois pas un instant ?
Non, j'y crois pas beaucoup parce que le Syntec, c'est le Syntec. Typiquement, à la base, ça a été conçu pour les bureaux d'études et je discutais avec un architecte hier qui me disait, la déification de l'être humain, qui est ce vers quoi on va aujourd'hui avec les machines et avec l'enrichissement de nos potentialités intellectuelles. La déification de l'être humain, c'est un truc qu'on apprend en école d'architecte et typiquement, c'est un truc qui a planté cette profession et qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont aussi en galère. Et donc, cette personne qui est architecte de formation me disait, il va falloir faire attention à ne pas reproduire les mêmes schémas et donc typiquement je suis pas convaincu qu'en étant porté par la même convention collective que les architectes on arrive à s'en sortir, tu vois. Je pense qu'il faudrait quelque chose de nouveau.
Est-ce qu'on devrait faire un conseil de l'ordre comme pour les avocats, les médecins et comme par hasard les architectes, ce qui reviendrait à reconstruire quand même les guides professionnels qu'on avait théoriquement abolis en France pour tous les métiers en 1789. Enfin, durant la Révolution française qui a duré 10 ans, je fais quelque chose de simplifié, hein, parce que les informaticiens sont pas très bons en histoire, je ne sais pas pourquoi.
Le rapport aux dates, c'est gérer les dates en informatique, c'est toujours un peu compliqué. Alors le conseil de l'ordre, c'est marrant, c'est une question qui revient régulièrement, et en fait, c'est quelque chose qui est interdit en France. On n'a plus le droit de développer de nouveaux ordres professionnels.
Ou alors, il faudrait que notre profession soit réglementée.
C'est ça. Mais alors, ça en vient. Alors, c'est hyper intéressant parce que là aussi, débat à la suite de la conf hier, de quelqu'un qui me disait est-ce que une manière d'introduire cette conférence, ça serait pas de se placer dans 10 ou 15 ans et de se rendre compte qu'en fait, les professions de développeurs, ou liées en tout cas à la production de code, ce sont des professions qui sont réglementées, assermentées comme des policiers, des juges, etc. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu comme événement critique pour que d'un seul coup la société prenne conscience du rôle tellement important qu'ont les producteurs de code aujourd'hui et que on se retrouve à réglementer ces professions dans un cadre juridique extrêmement fin. C'est une bonne question. Je réfléchis encore à ce qui pourrait introduire cette dystopie-là ou cette utopie. Je ne sais pas encore si c'est une utopie ou une dystopie, mais ça me semble intéressant comme axe de réflexion effectivement.
Il y a 10 ans à peu près, donc Lawrence Lessig a sorti un papier, Code is Law. Est-ce que tu l'as relu récemment? Est-ce que tu penses qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que tu penses qu'il y a toujours des réponses à trouver ou d'autres questions qui sont soulevées qui ne sont toujours pas répondues?
Alors je l'ai relu récemment, effectivement, notamment en préparant cette conférence. Je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense que c'est d'autant plus juste que le logiciel est partout dans notre vie, jusque dans nos cafetières et nos micro-ondes. Et à partir du moment où finalement on fixe dans un document écrit qu'est le code, le fonctionnement et les usages et les bonnes règles de fonctionnement de nos outils, on écrit de la loi, quoi. Et à partir du moment où on écrit de la loi, on a un pouvoir important sur la société. Et anecdote amusante, j'ai fait cette conférence, je travaille sur cette conférence sur l'éthique, à la suite d'une autre conférence que je donne depuis quelques temps maintenant qui s'appelle Privacy by Design, où on explique les tenants et les aboutissants de ce pattern-là. Et à un moment, j'arrive sur ce fameux Code is Law de Lawrence Lessig et où je dis si Code is Law, eh ben, ça signifie que le développeur est politique et il a un poids politique. Ce que je savais pas, et ce que j'ai appris hier en discutant avec Tristan Nito, c'est que c'est effectivement quelque chose que Lawrence Lessig a dit quelques années plus tard, après avoir énoncé Code is Law et après avoir écrit ça. Il a notamment écrit que l'architecture est politique et le code est politique, et que donc le développeur aussi a un rôle politique. Donc voilà, finalement, tu vois, intuitivement, on en arrive aussi à cette déduction-là que on a aussi un rôle politique important à jouer. Et moi, quand il m'arrive de faire du conseil encore dans certaines boîtes, ou d'accompagner des boîtes sur différentes problématiques, je me rends compte que la moitié de mon temps, je fais du code, et l'autre moitié de mon temps, je fais clairement de la gestion politique en interne de la société pour aider des différents départements à se parler les uns les autres parce qu'ils ne savent pas se parler et que finalement ils se parlent au travers du code sans même le savoir.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous discutons sur l'éthique dans le code avec Mads, Tech Evangelist pour Always Data. On voit sur cette fin d'année 2018, on voit une certaine forme de scrupule qui se monte collectivement chez les salariés des GAFAM, aussi bien par exemple chez Google pour le lancement en cours de construction d'une version chinoise de Google, donc censurée, d'Amazon pour son logiciel de reconnaissance faciale avec comme client les douanes américaines, et on se doute bien c'est pour traquer du migrant illégal. Est-ce que ces scrupules, c'est pas assez? Est-ce que ça va dans quel sens? Quelle est un petit peu ta vision sur le sujet? Tu le vois d'une manière positive ou non?
Je le vois d'une manière assez critique, dans le sens où aujourd'hui, on a tendance à beaucoup dire, vous en tant que développeur, vous êtes placé à un croisement qui fait que vous avez un pouvoir important, vous avez un pouvoir politique fort, et vous pouvez vous en servir. Alors, dans les faits, c'est vrai. On produit des millions de lignes de code qui sont shippées à des millions de personnes quotidiennement, etc. Dans la réalité, quand on regarde de façon un peu moins macro, quand tu bosses sur un logiciel de compta ou un logiciel de GED ou que sais-je, tu touches pas des millions d'utilisateurs et t'as pas un pouvoir politique délirant, quoi. Ceux qui ont des pouvoirs politiques délirants, c'est effectivement les gens qui bossent sur les outils d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale chez Facebook, chez Google, etc. Mais dans ces entreprises-là, est-ce que le développeur a encore un pouvoir politique fort ? Bah, je suis moins sûr parce qu'effectivement, l'usage de ces intelligences-là et de l'usage qu'on va faire de ces outils-là, c'est pas décidé par les développeurs, c'est décidé par des boards d'investisseurs et c'est décidé par des financiers. Et donc le pouvoir du développeur à ce moment-là, il se dissout quand même vachement dans le pouvoir économique, quoi. Donc je pense que c'est bien, je pense que c'est intéressant qu'il y ait un devoir d'objecteur de conscience qui se mette en place au sein de nos professions, y compris dans des grosses structures comme ça. Après, il va falloir faire en sorte que ça soit suivi des faits. Pour le moment, à part des gens qui publiquement disent « moi je travaille sur tel outil et finalement je suis pas très fan de la façon dont c'est utilisé », c'est pas beaucoup suivi des faits encore.
On a plusieurs exemples de boîtes immorales. Amesis, attention, il y a une équipe à Toulouse, à ce qui paraît, épinglée par Jean-Marc Manac comme complice de torture en Libye. Les boîtiers électroniques de certaines voitures diesel qui trichaient pour passer le contrôle anti-pollution. Hein. Attention, il y a les boîtes qui font ce genre de conception à Toulouse, hein, de boîtiers électroniques de voitures. Peut-être d'autres exemples en tête, as-tu, puisque toi tu as plus travaillé que moi le sujet.
C'est une bonne question. D'autres boîtes à morale. Oui, tu vas trouver effectivement toutes les boîtes qui font du deep packet inspection et ou qui sont liées de près ou de loin à des armateurs. Même sans aller jusqu'à des boîtes à morale, on voit encore le scandale Facebook qu'il y a eu sur les pubs politiques qui étaient finalement
Cambridge Analytica et tout ça.
Cambridge Analytica, etc. Et effectivement, c'est des usages qui sont des usages amoureux de nos outils, dans le sens où il y a une volonté de malversation et une volonté de manipulation derrière, quoi.
À part James Dunn, qui a été le lanceur d'alerte d'Amesis, rien n'a filtré des équipes de développement. Ils étaient quand même, je crois, une quinzaine, une vingtaine. C'est déplorable, ou ils avaient une crainte de l'efficacité de leurs propres produits?
C'est une bonne question. J'avoue que c'est des gens avec qui j'aimerais discuter pour avoir un peu leur point de vue et leur retour en interne de comment ils ont vécu les choses. Je pense que ça montre aussi que l'un des gros problèmes qu'on a, c'est que l'éthique dans notre profession est quelque chose qui n'est pas enseigné. On n'enseigne pas à penser le code éthique. Et ça veut dire qu'on n'a pas de retour critique. Et typiquement, là encore, retour qu'on avait hier en débat suite à la conférence, il y a une vraie distinction entre les gens qui sortent d'école d'ingénieur et les gens qui sortent d'université, où les gens qui sortent des facs sont des gens qui sont fortement politisés ou fortement sensibilisés à une vraie conscience politique, à un véritable enjeu politique, ce qui n'est absolument pas le cas des gens qui sortent de grandes écoles, école d'ingénieur ou école de commerce, ou etc. quoi. C'est des gens qui sont totalement dépolitisés. Et le problème, c'est que c'est aussi ces gens-là qui se retrouvent après dans nos professions. Et là où on pourrait les faire sortir d'école en ayant déjà une vraie conscience politique forte, il va leur falloir 10-15 ans en ayant des compétences déjà importantes et fortes à travailler sur des outils qui potentiellement seront des outils amoraux avant de se rendre compte que, merde, ils ont une portée importante aussi dans la politique et dans le rôle de nos sociétés. Et cette prise de conscience tardive, et ben c'est tout ce temps-là qu'auront ces boîtes pour pouvoir les faire travailler sur des produits sans que les gens se rendent forcément compte de la façon dont ils travaillent, quoi.
Quand Palantir, la boîte qui a comme client notamment la CIA, hein, mais aussi Airbus, c'est des gens très bien, ou la DGSI sont des gens très très bien aussi, nomme ses projets et serveurs selon l'œuvre de Tolkien et si possible ce qu'il y a dans le Mordor, est-ce que c'est un manque de clairvoyance par rapport à ce que c'est ou le résultat d'une culture toxique de l'entreprise?
Je dirais que c'est surtout une belle vacherie dans le sens où c'est un beau pied de nez, quoi. Enfin, je veux dire, on naming is hard, on va pas se leurrer, on va pas se mentir là-dessus, mais du coup on prend tous un petit plaisir à essayer de trouver des noms un peu fun à nos projets ou à nos machines ou voilà.
Au choix des noms de planètes ou le nom des Pokémon, on sait plus trop.
Ouais, c'est ça, moi je me suis beaucoup appuyé sur les personnages des Simpsons pendant très longtemps, ça me plaisait beaucoup, mais effectivement quand on se rend compte que des boîtes comme ça utilisent effectivement clairement des noms issus du Mordor, on se dit que quand même, il y a un sens de l'ironie chez ces gens-là qui est quand même hyper marqué. Et à un moment, comment on peut accepter, en plus de se faire cracher au visage de cette façon-là, c'est quand même assez dégueulasse, quoi.
Avoir de tels moutons noirs, est-ce que finalement on ne risque pas de créer un anti-élitisme numérique qui est en train de monter de plus en plus dans l'opinion, et finalement l'éthique c'est un moyen de se protéger contre la création d'un mouvement populiste qui voudra pendre les informaticiens comme les ludites à une époque, mais en beaucoup plus violent.
Eh ben, c'est hyper intéressant que tu parles des ludites, parce que on est effectivement à un moment où on a quand même énormément de similitudes avec la révolution industrielle il y a 150 ans.
Attention, les ludites, c'était en 1810-1812 en Angleterre.
C'était avant ça, mais c'est au moment de toute la mise en place de ce mouvement-là où d'un seul coup des gens ont pas envie de voir leur travail pris par des machines et se mettent à les casser des machines. Et la question, c'est est-ce qu'il faut des ludites du numérique? Est-ce qu'il faut aller casser de l'IA pour que l'IA prenne pas notre place? Ou est-ce qu'il faut simplement que on ait une prise de conscience plus importante et encore une fois plus politique du rôle de nos professions aujourd'hui, et que on soit peut-être un peu plus réfléchi sur la façon dont on met en place les choses. J'aime bien, si tu veux, tout le parallèle qu'on peut faire entre la révolution industrielle et la révolution des IA, quoi, parce que finalement on peut pas dire que la révolution industrielle c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire, on n'en serait pas là aujourd'hui, ça a amélioré le confort de vie de plein de gens. Juste, il y a aussi plein de gens qui se sont retrouvés sans boulot parce que c'était des ouvriers, des faisans, quoi. Et d'un seul coup, ces gens-là, ils ont dû être réintégrés à une société existante, tu vois. Ne faisons pas la même erreur aujourd'hui. Ne mettons pas à la porte plein de gens et plein de professions en mettant à la place des IA, en disant ça va améliorer le confort quotidien des individus au sens large, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, mais gardons aussi en tête que tout comme ça s'est produit précédemment, ces gens-là ne vont pas disparaître de nos sociétés, quoi. Il va aussi falloir réintégrer ces gens-là dans des groupes sociaux et trouver la bonne façon de le faire. Et si possible, de ne pas le faire dans le sang et les larmes, comme ça s'est déjà produit, quoi.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Mads pour se poser la question de l'éthique, Code is Law, et encore plus loin. On a parlé des néo-ludites, donc d'un mouvement terroriste qui a eu lieu d'ailleurs à Toulouse au début des années 80 dans cette émission. On a eu aussi une dans l'émission numéro 69, qui, je sais, elle dure 5h30, mais on a une intervention d'un avocat qui est absolument superbe, qui disait que les lois de la robotique d'Isaac Asimov ont été écrites dans une directive européenne, loi numéro 0 incluse. Ça, c'est vraiment pour les spécialistes du cycle des robots. C'est la résolution du Parlement européen du 16 février 2017 concernant les recommandations à la commission concernant les règles de droit civil sur la robotique. Ça te fait triper ou pas du tout? Ça t'inquiète qu'on fasse appel à un auteur de SF, fut-il docteur en physique?
Non, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, après, je suis un grand passionné de SF, donc ça forcément ça me parle, si tu veux. Mais non, je trouve ça hyper intéressant parce que encore une fois, ça montre tout le pouvoir de prospective des auteurs de SF et tout le talent qu'ils apportent à nous faire réfléchir sur notre futur et ce vers où on veut ou où on ne veut pas aller. Je trouve que c'est effectivement une bonne chose de s'en inspirer. Et après, faut le faire de façon toujours intelligente et critique, mais ça me semble pas déconnant de voir que les lois de la robotique, qui finalement sont pas absurdes, ont pu être intégrées dans du vrai droit européen, quoi.
Alors, la question suivante était: que faut-il ajouter dans la loi selon toi? Du coup, je t'autorise même à citer une autre œuvre de SF ou que sais-je, de fantastique ou même littéraire. Ah, non, je déconne quand je dis littéraire. Je vais me faire flinguer par plein de copains qui sont des auteurs. Je m'en excuse, ça m'a échappé.
Bonne question. Tiens, que faut-il ajouter dans la loi? J'en ai pas la moindre foutue idée, tu vois. C'est assez compliqué. En fait, c'est assez compliqué parce que en dehors du cycle des robots, je vois assez peu de choses qui ont édicté des lois de fonctionnement, ou alors c'était toujours dans des structures qui étaient des structures dictatoriales ou super puissantes, souvent au service de grands groupes économiques ou de grands super consortiums économiques. Donc on peut pas dire qu'on a vraiment envie d'intégrer ces lois-là dans un droit européen ou même plus universel.
Ouais, le cyberpunk, ça fait un peu peur.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement. C'est les moments où tu te dis, bon, alors je suis pas tout à fait sûr de vouloir aller par là. Donc, ouais, non, c'est une bonne question. C'est probablement plus à des auteurs comme Damasio qu'il faudrait poser la question.
Oh, jolie référence. Il y a eu une enquête mondiale qui a été révélée en septembre 2018 et qui a fait un buzz énorme. The Moral Machine, posant en fait à des gens, à plusieurs millions de personnes, des questions. On est une voiture autonome, on a un système de freinage qui est en échec critique. On a le choix entre tuer l'occupant ou tuer quelqu'un sur la route. On a différents choix moraux à faire. L'enquête était super intéressante et on espère avoir d'ailleurs l'auteur de cette enquête, puisqu'il se trouve qu'il est à Toulouse. Toi-même, est-ce que tu as jeté un œil et est-ce que tu es allé voir les questions ou est-ce que tu te les es posées? Qu'est-ce que j'aurais répondu?
Alors, je suis pas allé voir l'étude et je me suis pas posé les questions. En revanche, je me suis posé une question plus méta là-dessus, en interrogeant la distinction entre le choix et la décision. Et en fait, mais c'est une question qui est pas nouvelle. Je veux dire, c'est une question qui était déjà développée dans la philosophie antique. Et en fait, la différence, le distinguo entre le choix et la décision, c'est que le choix t'oblige à faire une sélection dans un ensemble hypothétique existant, là où la décision t'oblige à induire un choix, ou en tout cas induire une possibilité, inférer une possibilité à partir d'un existant sans que tu aies de choix prédéfinis à disposition. Et finalement, c'est là que rentrent les problèmes d'éthique et de morale. Et c'est un truc que les IA ne savent pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une IA aujourd'hui, ça reste une machine bête et sélective, programmée, quoi, algorithmique. Et ça veut dire que cette machine, elle a besoin d'avoir un référentiel connu fixe dans lequel elle va piocher une possibilité à un moment. Et elle n'est pas encore capable de façon sentiente de sortir, en fonction d'un contexte existant, une solution de nulle part. Ce qu'un être humain est encore capable de faire. Donc il y a une vraie opposition entre choix et décision, et finalement le choix moral, l'intelligence morale, elle se pose là. C'est est-ce qu'on veut juste être des moutons qui faisons une sélection dans un choix, ou est-ce qu'on est encore capable de se doter de décision, et est-ce qu'on veut doter la machine d'une possibilité décisionnelle?
Et toi, qu'est-ce qui te ferait peur? Voir les questions ou les réponses que tu donnerais toi-même? Qu'est-ce qui te ferait peur?
C'est une bonne question.
J'ai que des bonnes questions.
C'est une bonne question dans le sens où, tu vois, moi j'ai appris les gestes qui sauvent quand j'avais 18 ans, que j'étais au lycée, où j'ai fait une formation de premier secours, etc. C'était il y a 20 ans de ça. Et donc je me dis, j'ai jamais fait de remise à niveau depuis, j'ai jamais fait de reformation, etc. Ce qui normalement devrait être fait tous les 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et je me suis souvent posé la question de est-ce que en cas d'urgence, j'aurai quand même les gestes qui sauvent qui reviennent. Et bah, pour m'être retrouvé dans des situations d'urgence, oui. Je peux te dire que oui, ça s'est inscrit quelque part dans ton esprit, et effectivement les gestes reviennent de façon très automatique.
Et donc comme le vélo.
Ouais, comme le vélo, voilà, c'est ça. En fait, c'est quelque chose. C'est très étonnant d'ailleurs. Je sais pas en termes de sciences cognitives comment ça s'explique, mais c'est effectivement quelque chose qui s'inscrit, et d'un seul coup tu retrouves les automatismes. Et tu retrouves les automatismes parce que t'es en situation d'urgence et t'as pas le temps de réfléchir. Et finalement, je sais pas ce qui me ferait peur en termes de décision morale sur ces questions de est-ce que je dois tuer l'occupant ou tuer la personne sur la route. J'en sais rien, parce que ça dépend de tout un tas de paramètres, quoi. Est-ce que Est-ce que l'occupant, c'est une personne âgée et la personne sur la route qui risque de se faire tuer, c'est un jeune gamin? Et dans ces cas-là, est-ce que tu te dis, est-ce que je favorise le jeune au détriment de la personne qui a déjà vécu sa vie? Et en même temps, je sais très bien qu'une personne qui a déjà vécu sa vie se posera pas la même question que si c'est une personne qui a 20 ans. Enfin voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que tu sais que finalement, c'est dans l'urgence que tu vas réagir et c'est dans l'urgence que tu vas faire ton choix que tu vas prendre ta décision. Et finalement, cette décision que tu prendras, elle est au regard de tout ce que tu as vécu dans le passé. Et finalement, je suis pas sûr d'avoir envie de me poser ces questions-là parce que je sais que les réponses que je vais y apporter en prenant le temps d'y réfléchir et de me poser, c'est pas forcément les choix ou les décisions que je vais prendre à partir du moment où je vais être dans l'urgence de la décision.
Je vais poser une question, on la connaît très bien professionnellement pour un autre domaine qui est la sécurité informatique. Et cette question est: comment rentabiliser l'éthique? Parce que c'est un facteur de coût, mais comment passer de facteur de coût à facteur d'économie pour une entreprise?
Alors écoute, je vais citer Quentin Adam qui dit « Arrêtez de vouloir rentabiliser les lignes de code ». Et je trouve ça plutôt sain comme réflexion, dans le sens où lui, son approche, c'est de dire de façon intelligente il faut pas avoir une vision comptable du code, dans le sens où je vais faire un bout de code parce que ça va me permettre de me sauver 30 heures de boulot parce que je vais développer un script en 3 heures et puis ça m'aurait économisé 30 heures de boulot, ce qui est une bonne chose si tu veux. Juste, c'est pas parce que j'ai écrit ce code que d'un seul coup il va falloir le faire tourner pendant 3 ans. Il m'aurait économisé 30 heures, super. Après, c'est probablement de la merde parce que je l'aurais écrit en trois heures et voilà. Et ça n'a qu'un mérite, c'est de pouvoir m'avoir fait de m'avoir fait gagner 10 fois ce temps-là. Et puis après, on le jette quoi. Et on ne cherche pas à le rentabiliser sur 3 ans ou sur 5 ans parce que c'est de la logique comptable, etc. Je pense que c'est pareil avec l'éthique quoi. Il ne faut pas chercher à rentabiliser des choix éthiques. À un moment, on a fait un choix parce que c'était un choix logique, moral à un instant T. Si demain ou dans 6 mois il s'avère que ce choix doit être remis en question, on va pas chercher à le rentabiliser parce qu'il aurait été pris à un moment, il sera plus valide, on considérera que c'est obsolète. Si c'est obsolète, ça mérite d'être jeté quoi.
Est-ce que les développeurs devraient être notés en fonction de leur éthique, et dans ce cas-là, est-ce que c'est éthique?
Belle méta-question. Regarde le crédit social chinois. Hein, on note les gens et en fonction de leurs notes, ils ont le droit d'avoir un visa ou d'acheter des trucs ou d'avoir une place premium dans un avion. Ou voilà. Est-ce que c'est éthique de faire ça ou pas? Je vous pose la question. Je pense que y a probablement des populations en Chine qui répondront différemment. Probablement celles qui auront les droits d'accéder au visa et voilà, c'est exactement. Mais la question elle se pose aussi en fonction de la personne qui va s'interroger là-dessus. Donc à titre personnel, je considère que non, c'est pas très intelligent et c'est pas très éthique de noter des développeurs en fonction de ça, de les faire travailler sur des projets, notamment parce que tu crées des systèmes de classe quoi, et puis c'est jamais bon d'avoir des systèmes de classe dans une société. On a vu déjà par le passé à où ça menait quoi.
Est-ce qu'on risque pas de l'éthique washing comme on a connu le green washing sous prétexte de belles intentions, une entreprise fait mal un truc juste pour masquer que ce qu'elle fait à côté est terrible et inacceptable?
Si, on va, à partir du moment où on va s'emparer de ces questions-là, on va se diriger vers ce genre de situation. Après, j'ai l'impression que sur tout ce qui est greenwashing, on en est suffisamment conscient aujourd'hui pour avoir la possibilité de se dire, de s'interroger en tout cas, et d'avoir un peu de regard critique en se disant, est-ce que vraiment ce qui est fait là, c'est vraiment propre, ou est-ce que en dessous, ou est-ce que c'est juste là pour noyer un peu le poisson et qu'à côté il y a des trucs encore plus dégueulasses? Je pense qu'on a pris l'habitude de ça. On aura probablement le même retour sur les questions d'éthique. Mais oui, faut vraiment s'attendre à avoir des dynamiques d'éthique washing. On aura des départements ou marketing ou communication dans des grosses sociétés qui se spécialiseront là-dedans, évidemment, ou des entreprises qui se spécialiseront là-dedans. On ne va pas se mentir.
Mads, avant de se quitter, qu'aurais-tu à dire à tes enfants ou à tout enfant du futur immédiat pour qu'il reste du côté blanc du chapeau ?
Posez-vous la question de ce que vous faites bien pour le reste du monde. Moi, c'est ce qui m'a fait prendre conscience à un moment que ce qui me plaisait dans mon boulot, c'était moins l'enseignement technique ou l'enrichissement technique que j'avais eu, que je continue d'avoir. On continue tous de se former au quotidien et j'apprends encore des tas de trucs que je savais pas il y a 10 ans. Juste un moment, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête et que je me dirige vers d'autres sociétés et d'autres projets, c'était notamment le fait que ce que je faisais au quotidien n'apportait pas grand chose au monde, en tout cas dans des valeurs qui pour moi étaient importantes. Donc pour vous, enfants du futur qui nous écoutez et qui êtes déjà là, posez-vous la question du monde dans lequel vous voulez vivre demain et travaillez à ça au quotidien et mettez vos savoir-faire et vos compétences au bénéfice de ces valeurs-là. C'est tout ce qui est important.
Mads, merci beaucoup.
Merci.